Tous. Je voudrais particulièrement saluer les personnes que je n'ai pas eu l'occasion de saluer ce matin. Alors, vous savez qu'il est souvent coutume, quand on arrive dans une église qu'on connaît bien, de dire et de redire « c'est une grande joie pour moi d'être avec vous ce matin ». Alors, je vais pas le faire. Par contre, j'espère que vous me permettrez de vous dire que pour Joël et pour moi, c'est pas une joie, c'est un honneur. On est heureux de vous retrouver dans cette merveilleuse église avec des visages, j'allais dire qu'on a aimé, mais qu'on aime toujours, parce qu'on se voit, parce qu'on se téléphone, parce qu'on s'écrit peut-être de moins en moins, mais on se voit quand même, en tout cas avec certains. Et puis retrouver aussi cette chair que j'aime beaucoup, cette chair qui m'a vu trembler un premier dimanche du mois d'août 1986, quand j'ai prêché pour la première fois dans cette église. Je me souviens que j'avais les jambes qui tremblaient. Et j'étais reconnaissant au Seigneur d'avoir cette chair, parce qu'elle est pratique. On ne voit pas du tout mes jambes. Donc, si vous les aviez vues, vous auriez vu combien je tremblais. C'est une immense joie pour moi et pour Joël d'être avec vous ce matin. Je voudrais vous apporter les salutations de nos filles qu'on a eu au téléphone avant-hier, ou je ne sais plus, qui nous ont dit ben, « vous embrassez bien tout le monde à Gobert » et vous leur dites qu'on pense bien souvent à cette église qui a marqué notre enfance. Alors, Johan, il y a Stéphanie, Aurélie, il y a Delphine qui t'embrassent, qui vous embrassent tous et toutes. Voilà, je voudrais lire avec vous un texte que vous connaissez sans doute par cœur. C'est un texte très connu. On n'est pas très, 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 très loin de Noël, donc j'ai voulu rester dans cet esprit de Noël. Je trouve qu'on prépare Noël pendant des mois et des mois, et puis ça passe trop vite. Donc j'ai voulu revenir un peu là-dessus. Je voudrais vous parler d'un homme qui n'avait peut-être pas mon âge, mais presque, un vieillard qui s'appelait Siméon. Non, Johan, quand même, n'exagère pas. Alors, je voulais lire avec vous dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, et on va lire ce texte à partir du verset 22 jusqu'au verset 35. « Quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie amenèrent à Jérusalem l'enfant Jésus pour le présenter au Seigneur. » Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né de sa mère sera consacré au Seigneur, et il offrira en sacrifice une paire de tourterelles ou deux jeunes pigeons, selon ce qui est prescrit dans la loi du Seigneur. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Ce jour-là, il vint donc au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient l'enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le prit dans ses bras. Puis il bénit Dieu en ces termes. « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour la révélation aux nations et gloire de ton peuple Israël. Joseph et Marie étaient émerveillés de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit. Et s'adressant à Marie, il lui dit, « Il est là, lui, pour la chute, mais aussi pour le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe qui provoquera la contradiction. Quant à toi, Marie, une épée te transpercera l'âme, de sorte que soient révélés les raisonnements de beaucoup de cœurs. Que le Seigneur bénisse pour nous la lecture de sa parole. Je vous invite à nous incliner dans la prière. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous maintenant dans toute cette vérité. C'est au nom du Christ, Jésus, notre Seigneur, que nous te le demandons. Amen. Il y avait à Jérusalem un homme qui attendait. Il y avait dans les champs de Bethléem des bergers qui veillaient. Il y avait en Orient des mages qui observaient le ciel. Et tous ces personnages vivaient à la même époque sans se connaître. Les bergers furent prévenus par des anges et se mirent en route pour adorer le Christ. Les mages furent prévenus par une étoile et se mirent en route pour adorer le Christ. Mais Siméon ne fut prévenu par personne. Il ne put donc se rendre à Jérusalem, à Bethléem, pardon, pour adorer celui que pourtant il attendait depuis si longtemps. Alors que les bergers et les mages contemplent le Christ à Bethléem, Siméon attend toujours à Jérusalem. Dieu lui-même lui avait fait cette promesse. Il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ. Ni les bergers, ni les mages n'ont reçu de semblables promesses. Or, voilà plus d'un mois que le Christ est né à Bethléem. Et Dieu semble avoir oublié ce qu'il a promis à Siméon. Pour bien connaître le pays, je peux vous assurer que Jérusalem est à moins de 3,5 km de Bethléem. Et le vieillard continue à attendre. Quel étrange Dieu! Quel étrange Dieu qui semble oublier celui qu'il avait pourtant admirablement préparé à rencontrer Jésus. Siméon, nous dit l'évangéliste Luc, était un homme pieux. Il était juste. Dieu n'a donc aucune raison de le laisser de côté. Les bergers n'avaient sans doute pas la même réputation que Siméon. En effet, à l'époque, et c'est la raison pour laquelle les bergers ne sont pas partis faire le recensement, ils sont toujours dans les champs, parce qu'à l'époque, on soupçonnait les bergers de voler quelques brebis en racontant que les bêtes sauvages les avaient emportées. Quant aux mages, ils ne sont ni plus ni moins que des étrangers, que des païens. Or, voilà que Dieu se soucie maintenant des païens et des filous pour délaisser un homme juste, un homme pieux, un serviteur de Dieu. Assurément, les derniers sont bien en train de passer devant les premiers. Et pourtant, quoique laissé de côté pendant un temps, Siméon, nous allons le voir, va être autrement comblé que les bergers et les mages. Si le vieil homme, en effet, n'a pas à se déplacer de Jérusalem à Bethléem, c'est le Christ qui viendra lui-même à Jérusalem. Et le serviteur n'a pas à faire la route pour aller voir son maître. C'est le maître qui se déplace pour rejoindre son serviteur. Admirable. Et humble Dieu qui, de cette manière, honore au plus haut point celui qui a su attendre avec tant de confiance, avec tant de fidélité. Vous noterez que dans notre texte, une seule promesse a été faite à Siméon. Elle est au verset 26. Voir le Christ. Fort de cette promesse, le vieil homme a centré sa vie sur cette seule et unique attente, la consolation d'Israël. Verset 25. Et il a bien raison, car le Christ sera bel et bien la consolation de son peuple. Et ce qu'attend Siméon est conforme à la promesse qui lui a été faite. À ceci près, regardez bien le texte, que le vieil homme ne s'est pas approprié égoïstement la promesse divine. Il aurait pu garder pour lui cette promesse, en pensant jouir seul de la vision du Christ. Or, ce qu'il attend, ce n'est pas pour son seul bonheur, mais pour celui de tout son peuple. Christ ne sera pas la consolation d'un seul, mais de tout le peuple. Nous avons donc ici un homme juste, qui ne se replie pas sur lui-même, mais qui, dans son attente, est ouvert à tous. Dans sa prière d'homme pieux, son espérance est pour tous. Siméon est probablement un homme méconnu de son peuple, un homme isolé, hors du courant religieux, hors des factions politiques. Regardez le texte. Luc est incapable de savoir si Siméon est pharisien, sadducéen, hérodien ou zélote. Il le décrit sous un autre jour, parmi ceux qui n'ont pas besoin d'une étiquette pour aimer et pour servir Dieu. Ouvert à tous, Siméon attend pour le peuple celui qui sera le Christ, le descendant de David. En accomplissant cette promesse faite à Siméon, Dieu répond en même temps à la prière de son pieux serviteur. Et le vieillard, il a de quoi être comblé. Il a de quoi rendre grâce à Dieu. Il a de quoi bénir Dieu. Écoutez-le, Siméon. Maintenant, Seigneur, tu peux laisser aller ton serviteur en paix. Ou autrement dit, maintenant, Seigneur, je peux mourir. Admirable vieillard. Qui sait qu'un seul exaucement de Dieu peut remplir toute une vie humaine. Si bien que je me pose cette question, frères et sœurs, qui sommes-nous donc pour ne jamais être satisfaits et réclamer toujours quelque chose à Dieu, sitôt avoir reçu de lui l'exaucement de nos prières, nous nous empressons de lui en adresser une autre, sans jamais, peut-être, lui dire merci, mais en n'oubliant jamais de lui dire amen. amène dans le sens où tu m'amènes ce que je te demande. Si bien que Siméon doit nous interpeller dans notre gourmandise spirituelle. Dès que Dieu répond à l'une de nos demandes, nous nous empressons de lui en demander une autre. Siméon ne fut exaucé qu'une fois. Il peut maintenant mourir. Il est comblé. Siméon est exaucé, pleinement et merveilleusement exaucé, mais d'une manière extrêmement sobre, qui demande de sa part, si vous regardez bien le texte, une foi qui, moi, me reste sans voix. Le vieillard, mettez-vous à sa place, a vu passer dans le temple des dizaines et des dizaines de jeunes couples qui ont présenté à Dieu leur enfant. C'est la loi de Moïse. Et ils sont obligés de le faire. Et il en a vu passer, Siméon, des dizaines et des dizaines. Tous les jeunes foyers en Israël étaient tenus de faire ce que Joseph et Marie font. Et tous passaient par le temple. Et ma question est simple. Comment Siméon a-t-il su que ce jour-là, il tenait dans les bras celui qu'il attendait depuis si longtemps? Vous le saurez le mois prochain, si vous m'invitez. Non, je vais répondre à la question. Au dire des prophètes, le Christ devait être un descendant de David. Donc, il devait être d'une famille royale. Siméon ne se serait pas trompé en attendant un enfant d'une riche famille, venu au temple escorté par les motards, par la police. Il n'y avait pas de télé à l'époque. Ils auraient présenté à Dieu un agneau pour le sacrifice. C'est la loi qui le demande. Quand on a l'argent, on doit offrir un agneau. Lévitique chapitre 12, verset 6. Et quand on est pauvre, on n'apporte pas un agneau. C'est la loi qu'il dit. On apporte deux oiseaux. Comment donc, Siméon, a-t-il pu reconnaître dans ce fils de pauvre le descendant du roi David? Marie et Joseph sont restés silencieux. Ils ne prononcent aucune parole devant Siméon. Ils ne lui ont pas raconté ce qu'ont dit les bergers de Bethléem. Ils n'ont rien raconté de la visite des mages. Les mages sont rentrés chez eux par une autre route, les bergers ont regagné leur champ, et le fils de David entre dans le temple, sans la moindre escorte royale. Le texte est admirable. Le ciel ne s'ouvre pas. Aucune étoile dans le ciel n'apparaît, aucun signe n'est donné par Dieu, aucun miracle, rien. Rien ne vient attester que cet enfant est bien le Christ. Ce jeune couple est là, avec ses deux oiseaux, comme offrande, et un petit enfant. Semblable à tous les petits-enfants. Siméon le reconnaît pourtant. Et s'il le reconnaît, c'est dans la foi la plus dépouillée, la plus pure. Et c'est la raison pour laquelle je dis que seul le Saint-Esprit a pu mettre en cet homme cette profonde conviction qui lui fait tout simplement penser comme une évidence. l'enfant que tu tiens, c'est lui. Les parents n'ont rien dit, Dieu non plus. Il n'y a pas eu besoin de moindre signe. La foi de Siméon suffit. Et une aussi belle foi m'émerveille, parce qu'elle est totalement dépouillée. Pour recevoir un enfant dans ses bras, il faut avoir les mains vides. Siméon avait les mains vides depuis longtemps. Lorsqu'il reçut le Christ dans ses bras, sa vie fut comblée, pleine. Et Siméon est tellement comblé qu'il peut mourir. Il dit à Dieu, « Tu peux maintenant me laisser aller en paix. » Pardon. Et la foi de cet homme m'interpelle. Si bien que je me demande ce que nous entendons aujourd'hui. Quand nous parlons d'une vie bien remplie, il y a dans nos vies tant de broutilles, tant de futilités qui remplissent nos vies. La vie de Siméon fut remplie en un seul jour par un bébé silencieux qui l'a tenu quelques minutes dans ses bras. Siméon nous apprend, et je termine là-dessus, que Christ, en cette nouvelle année 2024, veut véritablement remplir nos vies. Il peut la remplir en silence. Il veut la remplir dans le silence de Dieu et la combler au point que la mort ne l'enlève pas. Je termine juste par une remarque. Luc ne trouve aucun mot pour décrire tant la joie ineffable de Siméon. Il ne trouve aucun mot. Cette joie et ce bonheur, elle est pour chacun et chacune d'entre nous en cette année 2024. Et si vous le désirez, Dieu est prêt à vous inonder de sa grâce et de sa paix, ce matin même. Amen. Nous prions. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce et ton amour. Nous te remercions pour l'exemple de Siméon. Nous te remercions pour ce vieillard, Seigneur, qui a su attendre avec patience. Nous te remercions parce que tu as su combler sa vie comme tu sauras combler la nôtre. Merci Père pour cette joie, pour ce bonheur que tu nous donnes. Amen. Je vous invite.